Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre série consacrée à la monnaie s'achève aujourd'hui par un débat. Cette semaine, nous avons interrogé le rôle de la monnaie dans l'économie, passant en revue le mythe du troc, la disparition des espèces et la concurrence entre les devises. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les projets politiques, parfois contradictoires, des crypto-monnaies. Lors de sa création, au lendemain de la crise financière, le Bitcoin entendait fonder un nouvel ordre monétaire, affranchi de l'État et des banques. 10 ans plus tard, les monnaies virtuelles semblent avoir été rattrapées par le monde de la finance et les devises de protestation sont devenues pour beaucoup des instruments de spéculation. Alors quelle société la révolution des crypto-monnaies fera-t-elle finalement advenir ? Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Et pour nous accompagner dans le dédale de la blockchain et des crypto-monnaies, nous accueillons aujourd'hui autour de la table Odile Lacomski-Laguerre, maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université de Picardie Jules Verne, autrice de cet ouvrage « Les institutions monétaires du capitalisme » publié chez L'Harmattan. Avec nous également Marc Alizard, philosophe et auteur d'un essai qui vient de paraître aux presses universitaires de France intitulé « Crypto-communisme ». En fin d'émission, Arjuna Andrade nous rejoindra comme chaque jour pour nous donner des nouvelles de l'écho.
I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky.
J'aime rêver à une prairie cybernétique où mammifères et ordinateurs vivraient ensemble dans une harmonie programmée, comme de l'eau pure effleurant un ciel serein. J'aime rêver à une écologie cybernétique où libérer de nos labeurs et retourner à la nature auprès de nos frères et sœurs mammifères. Des machines gracieuses et bienveillantes veilleraient sur nous. Bonjour Odile Lacomski-Laguerre et Marc Alizard.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre le poème « All Watch Over by Machines of Loving Grace » de Richard Brautigan, lu par l'écrivain lui-même et traduit par Louis Drillon de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Un poème écrit en 1967 et qui imagine un monde idéal où les machines auraient libéré les hommes. Que vous inspire ce texte, Odile Lacomski-Laguerre ?
Eh bien, ça m'inspire une nouvelle forme d'utopie et puis ça m'inspire une belle introduction pour notre sujet puisque le Bitcoin prend ses racines dans une idéologie ou en tout cas une utopie libertarienne et l'idée que la technologie et les machines pourraient venir à bout d'un certain nombre de problèmes de l'humanité et de la société dont la monnaie fait partie à l'heure actuelle de ces gros problèmes.
Il y avait cette idée dans les années 60 qu'effectivement la technologie, l'informatique allait sauver le monde, Marc Alizard.
Oui, alors on ne sait pas très bien si le poème de Richard Brautigan est ironique ou pas. Adam Curtis, qui a fait un documentaire qui porte le même titre, qui est une grande critique de la société cybernétique et de l'utopie justement de ces années-là, dit que c'est plutôt un poème qu'il faut prendre au second degré. J'en suis pas certain, parce qu'effectivement, à l'époque où Brautigan écrit ce poème, il fait partie d'un cercle de hippies, de cyber-hippies, qu'on a appelé, enfin Fred Turner, l'historien américain de ce mouvement, a appelé le cyber-communalisme de la commune de Paris, hein, donc, ou cyber-communiste, il varie entre les deux appellations, et qui sont des gens qui pensent que, effectivement, à travers l'invention des ordinateurs, on va pouvoir créer une nouvelle société. Alors pourquoi cybercommunaliste ou cybercommuniste ? Parce que, à la racine de la société d'informatique, il y a la communication, la théorie de la communication. Et dans communication, vous avez le mot commun, qui vient en quelque sorte remplacer l'utopie de l'international, hein, qui prend l'eau dans les années 60 et qu'il faut bien remplacer par quelque chose. Alors, est-ce que c'est le réseau des ordinateurs connectés qui préfigure Internet et donc cette société de communication généralisée qui va être la nouvelle internationale? C'est un petit peu le sujet de ce poème et de ce mouvement.
On va voir que les crypto-monnaies comme Internet ont peut-être suivi le même trajet, des illusions d'abord, puis ensuite un certain nombre de désillusions. Mais pour bien comprendre, peut-être qu'il faut revenir aux origines du Bitcoin. Dans quel contexte est-ce qu'il a vu le jour, Odile Lacomski-Laguerre?
Alors, le contexte, la naissance officielle et l'annonce officielle du Bitcoin se fait donc en 2009, immédiatement après la crise financière de 2008. Donc, on est effectivement dans cette configuration d'une défiance vis-à-vis du système bancaire et du système financier qui a engrangé un certain nombre de crises toujours plus graves, dont celle de 2008 a été vraiment très retentissante. Donc on est dans ce contexte de défiance et effectivement le Bitcoin apparaît comme un projet, au départ, un projet d'alternative monétaire, j'insiste bien sur le qualificatif monétaire. Et donc il s'agissait de trouver une alternative à une monnaie dont le système bancaire n'est plus capable de gérer correctement.
Satoshi Nakamoto, qui est souvent considéré comme le fondateur du Bitcoin, estimait en 2009 que l'histoire des monnaies fiduciaires est remplie de ruptures de cette confiance. Donc il y a vraiment cette idée de rétablir la confiance, c'est ce que cherche le Bitcoin.
Alors, c'est surtout fonder la gestion de la monnaie sur, non pas une confiance vis-à-vis des institutions ou de tiers, mais sur la technologie, les algorithmes et l'infaillibilité, notamment de la cryptographie. Donc, c'est faire confiance à cette technique, à la robustesse des mathématiques et effectivement trouver une alternative à la confiance placée dans les institutions, notamment banques centrales et gouvernements.
Alors justement, venons-en à cette technologie assez complexe. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette technologie qui entend donc, comme on l'a compris avec Odile Lacomski-Laguerre, qui entend remplacer la confiance dans l'État et dans la banque, Marc-Alisa?
C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi la mesure du monument qu'est Bitcoin d'un point de vue intellectuel. Hein, on ne rentre pas dans Bitcoin comme ça, c'est la confluence de beaucoup de savoirs mathématiques, c'est la résolution d'un problème de la théorie des jeux qui s'appelle le problème des généraux byzantins, qui est un problème insoluble, qui était resté insoluble longtemps pour les mathématiques classiques, et que Satoshi Nakamoto a résolu grâce à... Donc Bitcoin est la résolution en acte.
Satoshi Nakamoto qui serait une ou plusieurs personnes, on ne sait pas vraiment.
Oui, alors on ne saura jamais, on pense que c'est plusieurs personnes a priori, dont une aurait éventuellement disparu, ce qui expliquerait que les clés de Satoshi Nakamoto, les clés du butin de Satoshi Nakamoto, qui est un butin mythique, c'est-à-dire les premiers bitcoins qui ont été minés, qui existent, il y a quasiment un million d'entre eux, ont été perdus ou ne sont jamais été en tout cas révélés. La particularité de cet être hybride qu'est Satoshi Nakamoto, c'est qu'il est à la fois l'homme le plus riche du monde potentiellement à travers ses 1 million de bitcoins qu'il possède, et il n'a jamais dépensé un centime de ce qu'il possède. C'est un compte qui ressemble à une crypte de pharaon, mais sur laquelle est précisément basée la technologie Bitcoin, c'est-à-dire la cryptographie, la crypte et l'anonymat de son fondateur qui jette comme ça du coup cette technologie qui, comme disait Odile, se passe de confiance, y compris en un fondateur, et qui l'offre à la communauté.
Et alors comment résout-il justement ce problème des généraux byzantins de la théorie des jeux,
Marc-Alisa? Il arrive à trouver un moyen de produire ce qu'on appelle du consensus décentralisé. Alors, le problème des généraux byzantins, pour le dire en un mot, c'est le problème de généraux qui sont donc autour d'une ville qui peut être Byzance et qui sont séparés les uns des autres, qui peuvent pas communiquer entre eux, et puis en plus ils communiquent avec des messagers, mais les messagers peuvent être corrompus, ils peuvent perdre leur message en route, et ils doivent prendre une décision. Soit ils attaquent, soit ils reculent, mais ils doivent absolument le faire ensemble. Si certains attaquent et d'autres reculent, ils sont morts. Donc, comment est-ce qu'ils vont arriver à une décision consensuelle sans avoir de tiers de confiance, d'institutions, de bureaux de vote en quelque sorte, avec un assesseur qui va vérifier que les votes sont de bonne qualité, qui se comptent en nombre suffisant, qui n'ont pas été corrompus, qu'il n'y a pas de double vote. C'est la question des doubles paiements dans l'institution monétaire. L'institution monétaire vise essentiellement à garantir qu'il n'y a pas de double paiement, car il n'y a pas de double écriture sur un livre de compte quand on dépense une monnaie, sinon on peut faire n'importe quoi avec la monnaie. Le problème des doubles votes est donc celui des doubles paiements, et il va régler ça avec un système donc assez complexe qui est basé sur la signature cryptographique des votes des généraux, qui sont en fait les ordinateurs.
Cette signature, c'est en quelque sorte un casse-tête qu'il faut
résoudre.
Oui,
voilà. Alors c'est pas exactement un casse-tête, c'est même de la force brute, c'est-à-dire qu'il faut trouver un nombre. Il faut trouver un nombre extrêmement complexe, extrêmement long, qui d'ailleurs dont la longueur peut varier et qui nécessite du coup une puissance de calcul plus ou moins importante, mais qui fait en sorte qu'il faut 10 minutes pour le trouver. Dans tous les cas. Et donc, toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est créé qui correspond au fait que le nombre a été cassé par la puissance de calcul pure des ordinateurs qui sont en compétition, en concurrence pour le casser, qui sont ce qu'on appelle donc les mineurs de Bitcoin, et qui reçoivent, quand ils ont cassé le nombre, un Bitcoin en échange du travail qu'ils ont fourni pour la communauté.
D'où la nécessité d'avoir des ordinateurs très puissants, et on a notamment critiqué le caractère énergivore du Bitcoin.
Oui, mais ça c'est un mythe. Je pense qu'il est destiné à faire mal au Bitcoin. Jacques Favier, qui vient d'écrire un livre, qui est le président de l'association du Bitcoin en France, l'association du coin, pardon, avec Adli Takal Bataille, a écrit un livre pour dans lequel il y a un chapitre qui dénonce cette chose-là. Il explique en gros que le calcul le plus haut même pour la consommation de Bitcoin, c'est 15 TWh. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la climatisation, c'est 2000 TWh. Donc on est très très loin de l'idée que la consommation d'énergie pour créer des bitcoins met en péril le monde.
Je pense que les climatisateurs qui ont des résultats
auront plutôt raison du monde que Bitcoin.
Il y a aussi des études qui ont des résultats inverses, mais je voudrais vous entendre, Odile Lakomsky-Laguerre, sur ce protocole Bitcoin. L'objectif, c'est d'avoir des informations, un processus d'information qui soit transparent, décentralisé, infalsifiable, indéchiffrable et inviolable. C'était ça l'enjeu?
Oui, l'enjeu c'était ça, puisque en fait Bitcoin c'est l'issue d'une série d'expérimentations qui consistait à créer une monnaie intraçable sur le net. Et les débuts de cette expérimentation, c'est avec David Chaum, au début des années 80, donc dans le milieu des cryptographes anarchistes. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir se passer du contrôle incessant de l'État, notamment. Donc on est vraiment dans cette logique des débuts de l'Internet où il faut quand même trouver des moyens de préserver les données et la liberté individuelle et de préserver des zones d'anonymat, donc en créant une monnaie effectivement intraçable. Et le principe de la blockchain rend effectivement les transactions et en tout cas le registre sur lequel sont inscrites toutes les transactions infalsifiables et inviolables grâce aux propriétés notamment de la cryptographie.
Après une première phase d'expérimentation, c'était simplement une monnaie qui exerçait en circuit fermé. Ensuite, elle a été ouverte et on a permis les transactions avec dollars, euros, etc., etc. Et on est un peu dans la troisième phase d'expérimentation où des bourses comme celle de Chicago, etc., commencent à lancer des produits dérivés sur les bitcoins, où on commence à faire des introductions en bourse pour des sociétés jeunes, des startups, etc., en bitcoin. Donc là, vraiment, on a un moment crucial, je pense, si on lit vraiment le texte qui a donné lieu à la création du bitcoin en 2008-2009, on ne parle jamais de finance.
Voilà l'économiste Ludovic Desmet dans l'émission Du Grain à Moudre sur France Culture. Comment expliquer, Odile Lakomsky-Laguerre, que le Bitcoin soit apparu comme une aubaine pour les spéculateurs?
Alors, je pense qu'il faut resituer l'apparition du Bitcoin dans le contexte du capitalisme actuel. Nous sommes actuellement, et je pense que ça fait partie du problème de fond par rapport à la défiance de la monnaie bancaire actuelle, nous sommes aujourd'hui dans une configuration de capitalisme financier avec des logiques de comportement qui sont principalement des comportements patrimoniaux. La sphère financière s'est énormément développée et on l'a laissé se développer. Il faut pas oublier ça, hein, parce que c'est aussi, à mon avis, souvent une pas une confusion, mais l'idée, hein, quand vous voyez la réaction de Bitcoin par rapport à une collusion banque-gouvernement, je pense au contraire que depuis les années 80, les États n'ont jamais été aussi loin de la monnaie et de la finance parce qu'ils ont permis la déréglementation des systèmes financiers et la dérégulation de la finance. Or, ça a donné lieu à un capitalisme qui est orienté pour les entreprises vers le principe prioritaire de création de valeur pour l'actionnaire et, dans le domaine de la finance, à des comportements principalement patrimoniaux et à des comportements spéculatifs. Exactement donc, ce que décrivait Keynes aussi dans les années 30. Voilà, c'était aussi un... Et donc, cette libéralisation de la finance a donné lieu à une excroissance de la sphère financière et des comportements financiers. Et on est à la recherche de rendements faciles, rapides, immédiats, et donc des placements spéculatifs.
Et pourquoi ces rendements, justement, sont particulièrement intéressants? Est-ce que c'est parce que, notamment, le Bitcoin, a organisé sa propre rareté?
Oui, absolument. Alors, le Bitcoin, alors c'est pas qu'il a... C'est pas dans un premier temps l'offre limitée qui permet ça. C'est surtout, comme le disait Ludovic Desmet dans le court passage, c'est surtout le fait d'avoir ouvert à l'échange avec les devises officielles le Bitcoin. En fait, alors on revient un petit peu sur la question de la valeur, mais effectivement il y a une offre de Bitcoin qui est limitée, donc le prix, c'est-à-dire le taux de change du Bitcoin par rapport aux devises officielles, dépend évidemment de la fluctuation de la demande par rapport au Bitcoin. Et la bulle spéculative à laquelle on a assisté, c'est l'engouement sur un nouveau type d'actif. Parce que on est à la recherche de rendements, comme je le disais, à très court terme, de hauts rendements.
Vous interrompre, on est sûr aussi que les banques centrales ne peuvent pas y toucher. Ça peut aussi rassurer les investisseurs.
Oui, mais je pense surtout dans un premier temps, c'est une aubaine par rapport à des perspectives de rentabilité qui se sont amoindries en raison du contexte de taux d'intérêt très très bas, historiquement très bas, dans lequel on est. Il faut rappeler aussi que les politiques de quantitative easing, donc de
la politique monétaire, la politique non conventionnelle,
monétaire accommodante, avec une augmentation des liquidités et du refinancement beaucoup plus facile pour les banques, a dégagé une quantité de liquidités. Et puis on est aussi, même au niveau de la configuration mondiale, dans une abondance de liquidités au niveau mondial. Et lorsque vous êtes face à une économie qui n'est pas en pleine croissance, où va cette liquidité? Si elle ne va pas sur des dépenses d'investissement, elle va sur des dépenses, sur des investissements en actifs. Et donc, ce qui explique les différents types de bulles. Et une fois qu'une bulle s'écroule, il y en a une autre qui se forme.
Et donc là où le Bitcoin avait été conçu comme un moyen de paiement, il est en train de devenir essentiellement un instrument de spéculation?
Il est pour l'instant devenu un instrument de spéculation. Bon, là, ça s'est quand même un petit peu calmé, puisque on a eu une correction sévère après l'éclatement de la bulle, dont le point culminant était un petit peu avant Noël 2017. Donc depuis, on a quand même une correction assez importante. Je pense qu'il faut que les choses se stabilisent un petit peu dans le système Bitcoin aussi. Mais effectivement, ça a évolué. Je ne pense pas que ça soit d'ailleurs dans l'objectif des bitcoiners ou des gens qui font partie de la communauté Bitcoin, parce qu'elle est pas complètement homogène, hein. Certains croient toujours dans ce projet monétaire alternatif.
On va en parler, il y a des désaccords en effet. Marc Aliza.
Non, il y a des effets spéculatifs qui sont certains, il y a une grande volatilité parce qu'il y a une liquidité qui est faible, donc dès qu'on peut jouer sur les cours et manipuler les cours, c'est évident. Néanmoins, il faut quand même dire deux choses, il y a un vrai usage. il y a eu, et il y a encore un vrai usage. Il y a eu d'abord en Chine un vrai usage, avant que ce soit interdit en Chine, parce que la Chine contrôle ses changes et que les Chinois voulaient pouvoir avoir la disposition de leur argent, et que c'était donc précisément l'usage que Satoshi Nakamoto lui avait prédit, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer à sa famille à l'étranger de l'argent, ou bien d'envoyer même de l'argent qui irait en dehors du contrôle du gouvernement chinois.
Cette espèce de liberté n'a pas été acceptée.
Les Chinois ont bien compris le problème que ça posait potentiellement au yuan, si ça, c'est parce qu'il y a eu une espèce de flambée d'engouement en Chine considérable, et ils ont interdit la possession de Bitcoin. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont un gouvernement suffisamment autoritaire pour permettre à des citoyens de ne pas posséder tout ce qu'ils veulent. C'est plus compliqué dans les démocraties occidentales pour le moment, mais ils ont d'autres moyens d'empêcher les choses, par exemple en taxant très très lourdement la possession de Bitcoin, ce qui est en train de se passer en certains endroits. Mais il y a aussi un usage typiquement au Venezuela en ce moment, où vous avez une monnaie hyperinflationniste. Des Vénézuéliens écrivent des mots assez bouleversants d'ailleurs sur Internet pour expliquer comment Bitcoin leur permet au jour le jour d'acheter des produits de première nécessité. Ils convertissent des Bitcoins au jour le jour en fonction de leur usage, etc. Ensuite, je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il ne faut pas se représenter Bitcoin comme une valeur traditionnelle. Ce n'est pas les tulipes hollandaises sur lesquelles on spécule et puis ensuite ça s'effondre et ça vaut zéro. Le Bitcoin est un actif très particulier qui a plutôt une courbe de croissance comme un bien de consommation, c'est-à-dire comme le téléphone portable. Le téléphone portable, il passait de 0 à 99% d'usage. Donc sa courbe, c'est 0 à 100. C'est une courbe avec des moments de flambée, des moments où on en a plus, des moments où on en a moins. Mais grosso modo, il y a une courbe assez linéaire qui va du fait que personne n'en a au fait que tout le monde en a. On appelle ça une courbe triangulaire. C'est-à-dire, si vous avez des bitcoins, vous dites à deux personnes qu'il faudrait qu'ils en aient, et les deux personnes le disent à deux autres personnes, etc. Et donc ça prolifère sous la forme d'un réseau, hein, d'un rhizome, qui fait que la courbe de croissance de Bitcoin, elle a vocation à être stratosphérique de par nature. Si le projet ne capote pas, théoriquement, tout le monde devrait pouvoir avoir envie d'avoir cette liberté financière, d'avoir des Bitcoins, et de la sorte, comme elles sont effectivement limitées, il y aura un effet de rareté qui créera un effet de volatilité. Et les spéculateurs le savent, et ils en veulent maintenant pour en avoir peut-être plus. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va marcher comme projet politique, je le dis pas du tout. Hein.
Et à condition, effectivement, que le Bitcoin continue à conserver ce projet politique.
À mille conditions, il est possible que ça vaille effectivement zéro demain, mais le pari qu'ils font, c'est quand même celui-là, et c'est un pari rationnel, c'est pas qu'un pari spéculatif.
Et en même temps, on estime que 1% des utilisateurs de Bitcoin détiendraient environ 50% de la masse totale. C'est une concentration de richesse qui paraît bien éloignée de l'idéal de départ, Odile Lacomski-Laguerre.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai plus de doutes pour l'instant, hein, parce que c'est toujours pareil, on peut pas, l'économie est complexe, hein, et toujours en devenir, et on peut pas être à 100% sûr de ce qu'il va advenir, mais pour l'instant effectivement ça va un peu à l'encontre de la démocratisation et effectivement d'une perspective d'organisation sociale horizontale. Effectivement, la concentration des richesses dans le système Bitcoin est assez importante.
Si ce n'est que Bitcoin n'a que 10 ans.
Oui.
Il faut quand même rappeler quelque chose. Si les gens en ont 50%, parce que comme je vous le disais, quand Satoshi Nakamoto minait du Bitcoin, et quand les gens qui ont commencé à s'intéresser au Bitcoin, ils en ont miné beaucoup d'un coup. À l'époque, ça valait 0,01 centime un Bitcoin. Donc
et ça a pu atteindre 20 000 dollars.
Vous mettiez 100 euros, vous aviez 1 million de Bitcoin. Donc évidemment que les gens ont 1 million de Bitcoin, ça paraît complètement délirant. Mais c'est la réalité de quelque chose qui, au départ, se construit comme ça, puisque les mineurs sont récompensés en Bitcoin, donc quand on mine, on a des Bitcoins, donc au départ, il y a une asymétrie, mais le pari aussi qui est fait, c'est que cette asymétrie a vocation à se diluer dans le temps, à mesure que les patrimoines se font, se défont, se transmettent, se perdent, et que les gens utilisent aussi cette monnaie.
Mais si ce moyen n'est pas encore un moyen de paiement aussi important qu'il ne pourrait l'être, est-ce qu'on peut considérer véritablement le Bitcoin à l'heure actuelle comme une monnaie, Odile Lacomski-Laguerre?
Alors, en fait, tout au début, quand j'ai commencé à m'y intéresser, en tant qu'économiste pure, hein, voilà, c'est-à-dire que je me suis vraiment mis l'habit de l'économiste pur et dur, et alors, un petit peu institutionnaliste quand même, hein, je me suis dit, bah oui, après tout, si on peut définir la monnaie comme une institution ou comme un système de paiement, eh bien, oui, le Bitcoin...
est une monnaie. D'un point de vue théorique, c'est une monnaie, puisqu'il y a la définition conventionnelle d'une unité de compte, le Bitcoin. Il y a bien un système de règles, là en l'occurrence c'est le protocole informatique, qui détermine l'émission et la gestion de ce moyen de paiement. Et puis potentiellement on peut effectuer des transactions en Bitcoin. Donc
il y a aussi des économistes qui estiment que ce n'est pas une monnaie.
Oui, mais je pense que les économistes qui estiment que ce n'est pas une monnaie sont ceux qui ont énormément de mal à se défaire du schéma dominant de la monnaie à l'heure actuelle, qui est centralisé, unique, dépendant des garanties de l'État, etc. En fait, au départ, je pense qu'il faut vraiment être dans une logique, dans l'idée que aucune organisation monétaire, aucun ordre monétaire, aucune technique monétaire n'est finie dans l'histoire. Et on peut très bien imaginer le dépassement de la monnaie bancaire et le remplacement de la monnaie bancaire par autre chose. Et le Bitcoin et la technologie qui le porte pourraient très bien faire advenir une nouvelle forme de monnaie à part entière. Mais il faut revenir plus amplement sur ce qu'est la monnaie et pourquoi le Bitcoin en ce moment est un peu balbutiant par rapport à ça.
Une nouvelle forme de monnaie que Friedrich Hayek, l'économiste, avait peut-être annoncée.
L'idée de priver totalement un gouvernement de son monopole ancestral sur la monnaie demeure trop peu familière, voire inquiétante pour la plupart des gens, pour avoir quelque chance d'être mise en œuvre dans un futur proche. Mais je n'ai maintenant aucun doute que le secteur privé, s'il n'en avait pas été empêché par l'État, aurait depuis fort longtemps fourni au public un choix de monnaie diverse. Les monnaies qui auraient prévalu grâce au processus de concurrence auraient fondamentalement eu un pouvoir d'achat stable et auraient empêché tant la stimulation excessive de l'investissement que les récessions qui leur sont consécutives. Le projet vise donc à imposer aux institutions d'émission monétaire une discipline amplement nécessaire en rendant impossible pour elles la mise en circulation, sur une longue période, d'une monnaie significativement moins digne de confiance et moins utilisable que les autres. Dès que le grand public se sera familiarisé avec les possibilités offertes, tous les errements par lesquels une monnaie de moindre qualité peut être offerte seront immédiatement sanctionnés par la substitution rapide de la monnaie en question par d'autres.
On entendait un extrait d'un essai de Friedrich Hayek pour une vraie concurrence des monnaies, paru en 1976. Ce qui était considéré alors comme une utopie est devenu une réalité avec les crypto-monnaies, Odile Lacomski-Laguerre.
Oui, c'est vrai que le système Bitcoin a des influences dans l'école autrichienne et dans la théorie monétaire autrichienne. On trouve effectivement des traces de Hayek et de son projet de dénationalisation de la monnaie, dépolitisation de la monnaie, de concurrence monétaire.
C'est vraiment l'idée que c'est le marché qui va se charger de ne conserver que les monnaies les plus performantes.
Oui, chez Hayek, c'est le marché et la concurrence, les vertus de la concurrence. C'est-à-dire que effectivement, chez Hayek, cependant, c'était encore des banques, hein, qui émettaient leur propre monnaie, leur monnaie de marque. Et si une banque venait à émettre trop de monnaie, eh bien la valeur de cette monnaie se déprécierait par rapport aux autres. Et ça supposerait évidemment des citoyens qui soient capables d'avoir toutes les informations sur les investissements de chaque banque, comment la banque conduit la politique de sa monnaie. Et du coup, ces citoyens, effectivement, auraient le choix d'aller vers d'autres monnaies concurrentes. Et du coup, ça permettrait de rééquilibrer l'offre individuelle de monnaie.
Aujourd'hui, on observe une concurrence entre les 4000 crypto-monnaies qui existent, Marc Alizart.
Ah oui, complètement. Complètement, c'est passionnant d'ailleurs. Hein. Les paris sont ouverts. Quelle est la monnaie la crypto-monnaie qui s'en sortira le mieux, on ne le sait pas. Il y en a des nouvelles qui vont arriver qui vont avoir un impact absolument colossal sur nos vies. Je pense au Facebook Coin, dont beaucoup de gens parlent et dont on ne sait pas exactement de quoi il est composé. Ce serait une monnaie, une crypto-monnaie qui serait indexée sur un panier de devises. Donc il y aurait une sorte de stabilité et de parité avec un panier de devises. Donc une sorte de monnaie internationale, hein, comme seul le FMI en fait en possède pour le moment, mais qui serait offerte à tout le monde, dont l'usage serait offert à tout le monde. moi, alors il y a une chose chez Hayek qui est troublante, c'est que il parle de concurrence des monnaies, mais on a toujours le sentiment qu'à la fin il y en a une qui gagne, que la concurrence produit un monopole monétaire et c'est la meilleure monnaie qui gagne. Et la meilleure monnaie qui gagne pour Hayek, c'est la monnaie qui a le plus d'or en elle, en quelque sorte, qui est adossée au métallisme de l'étalon or traditionnel. Et on retrouve aussi ça chez les bitcoiners, cette idée que Bitcoin étant limité, c'est de l'or digital. Hein, il est comme on mine, d'ailleurs le terme de mineur veut bien le dire, hein, on mine des bitcoins, donc on trouve des pépites, etc. On peut aussi imaginer un modèle différent, plutôt sur le modèle que Bernard Liétard, qui est décédé malheureusement il y a quelques semaines, avait imaginé, qui est celui d'une polyculture monétaire, où en fait, il n'y a pas le meilleur qui gagne, mais en fait, chaque monnaie a un usage spécifique et crée les conditions d'un équilibre du plus sain des systèmes monétaires. La réflexion de Bernard Liétard, c'est de dire qu'effectivement, il faut une concurrence monétaire, mais parce que la monoculture monétaire est aussi dangereuse que la monoculture des forêts. Si vous n'avez que des pins partout, vous avez la maladie du pin ou un feu de forêt, et tout flambe. Si vous avez des chênes et que vous mélangez, vous avez un écosystème de forêt, comme un écosystème monétaire, avec des monnaies qui ont des usages différents, des vélocités différentes, et qui donc sont moins sensibles aux crises. Alors, il prenait l'exemple.
C'est ce qui se dessine aujourd'hui. On voit différentes crypto-monnaies pour différents usages.
Oui, je pense que c'est un modèle possible qui sort de l'alternative un étalon ou pas d'étalon, qui est simplement l'idée d'une coexistence monétaire selon les usages. Alors, ça se rapproche plus de ce qu'on connaît déjà dans le monde des monnaies complémentaires et alternatives. Vous avez des monnaies locales, vous avez en Suisse deux monnaies, hein, vous avez le franc suisse et le vire, qui est une monnaie intra-PME. Vous pourriez avoir le Facebook coin pour certains usages, un Amazon coin peut-être pour d'autres. Vous aurez le Bitcoin pour certains usages plus complexes et qui serait peut-être même une monnaie internationale en soi, une monnaie de compensation pour les grands échanges internationaux. Enfin voilà, c'est pas inintéressant de se dire que cette concurrence monétaire, effectivement, y compris au sein des crypto-monnaies, produit les conditions d'apparition d'un écosystème.
Votre point de vue sur cette polyculture monétaire, Odile Lacomsky-Aguerre ?
Alors, moi, j'ai été biberonnée dans ma formation d'économiste, et voilà, pour la théorie de la monnaie, quand même à la théorie institutionnaliste française. Et puis ensuite, comme j'ai réalisé ma thèse de doctorat sur la théorie de la monnaie chez Schumpeter, à chaque fois, ce sont quand même des modèles de monnaie unique avec une centralisation monétaire. Donc, je suis un peu plus sceptique sur le fonctionnement.
La théorie économique n'a pas envisagé ce
si,
schéma.
Si, parce que historiquement il y a des expériences de multiplicité monétaire, hein, et certains économistes, pas tous, ne font pas abstraction de l'histoire. Donc les économistes qui s'intéressent à l'histoire et à l'histoire monétaire savent que de telles expériences ont eu lieu. La multiplicité monétaire, c'est une chose qui a existé dans l'histoire des monnaies.
Mais en termes d'efficacité, alors, vous êtes plutôt
C'est aussi parce que, en fait, si je reprends la théorie de Schumpeter, en fait, théorise une monnaie qui est cohérente avec le modèle de capitalisme qu'il a en tête. Hein. Donc, chez Schumpeter, le capitalisme, c'est la dynamique, c'est la créativité, c'est l'innovation permanente. Et cette innovation, elle doit être financée. Et ce qu'explique Schumpeter, c'est que l'innovation ne peut pas être financée avec une richesse existante, puisque toute la richesse est mobilisée pour le fonctionnement actuel de l'économie. Donc, il faut un mode de financement. Et pour lui, le principal mode de financement de l'innovation, c'est le crédit bancaire, c'est-à-dire une avance en capital, un pari sur la création de richesses futures. Or, il explique que, et c'est toute la théorie moderne de la banque et de la monnaie bancaire, il explique que une économie fondée sur les banques et le crédit va nécessairement se centraliser pour des principes d'efficacité et de stabilité. Et la création d'une banque centrale, c'est aussi pour la stabilité monétaire. Parce qu'il ne croit pas, et là, il fait concurrence aux théories du free banking, il ne croit pas à la concurrence monétaire, la monnaie étant un bien public et les banques étant censées remplir un service public.
Alors, il y a peut-être cette idée chez les militants des crypto-monnaies de la première heure de créer un nouveau modèle économique, peut-être même de sortir du capitalisme. Est-ce que c'est ce qu'ils attendent, selon vous, Marc Alizart ?
sortir du capitalisme, c'est beaucoup dire. Je ne crois pas que ce soit dans la culture des crypto-anarchistes de sortir du capitalisme. Sortir des Odile Lacombe, ce qu'il a dit, des errements d'un certain type de capitalisme, certainement. Odile Lacombe, ce qui parlait de capitalisme financier, on parle souvent de néolibéralisme, de financiarisation, de bancarisation. On peut aller peut-être même plus loin dans le sens où on peut parler de capitalisme monétaire. Ce que met en doute et en cause le milieu des crypto-anarchistes ou des crypto-monnayeurs, qu'on pourrait dire, c'est que la production de monnaie, l'émission de monnaie, bien qu'elle se dise apolitique, puisque la séparation entre banque centrale et pouvoir politique a été faite précisément pour donner un vernis d'apolitisme à la monnaie, est en fait au service d'une politique qui ne dit pas son nom et qui est une politique qui vise à permettre à la rente de se perpétuer. Odile le disait, une quantité de liquidités énormes sont créées et ça crée des effets dans l'économie réelle. C'est à la fois des boom and bust, des crises à répétition absolument colossales, dont la crise des subprimes a été un exemple, mais aussi une inflation qui ne dit pas son nom ou dont on ne veut pas dire le nom. Vous savez que dans le panier de l'inflation, on ne compte pas par exemple l'immobilier ou les actions. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'immobilier, les actions et l'or, depuis 30 ans, ont eu une ascension, une multiplication par 500 pour l'or de leur valeur. C'est-à-dire qu'on pourrait très très bien dire que ce qui s'est passé, c'est que notre monnaie s'est dépréciée 500 fois. Et donc, ne pas parler de cette inflation-là, c'est très malhonnête. Parce qu'elle fait souffrir directement et elle est à la cause aujourd'hui d'un nombre de blocages extraordinaires dont les populismes mondiaux sont l'expression.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini. Getting texts from my ex, I think she know I'm up next. Yeah, they hate when I flex, it don't really make sense. Yeah, I got a lot of enemies, I don't wanna make amends. I don't wanna make friends, I just wanna make M's. My house is a big crib, should I just throw a party here? Had your girl getting out of here, no regrets, no sorries here. 2K on a jacket and my wrists on Cartier. What I'm saying they don't wanna hear, all the hate is what got me here. Hey, yeah. Who talking shit, I'ma let them know. You had the juice but you let it go. All that hating is getting old. You put that girl on a pedestal. I hit her once and I let her go. Switching my hoes like I'm switching clothes. I'm covered in ice like I'm in the snow. Girl, you know I'm from the trap. Face look like a rat. Came straight out of LV, now LV's on the bag. Keep bragging about you getting money, but the label taking half. Hey, add it up, quick math. Hey, you just broke and you sad. Little girl, I don't know what you wanna beef about. You are not what you tweet about. You are just a rat looking girl who Twitter just made a meme about. If you got money, bring it out. Ghostwriter, just bring him out. What happened with young boy? You weren't a bitch you wanna keep around. Guess you really couldn't keep him down. How the fuck are you 14 with rumors that you sleep around? Shout out to the Eagles, shout out Philly. Yeah, we need Meek around, but just like your dad. You're not a girl I wanna be around. Rollie on me, it's a big boy. With the gang smoking big doinks. I just started to invest. Now this fit on me costs a Bitcoin. You ain't getting no checks. Record label taking all the Bitcoin. You can't hit 100 mil, little bitch. I'm making big noise. Little girl with an attitude. You're me, we just laugh at you. I ain't even really mad at you.
Vous écoutez Bitcoin du rappeur américain Rice Gum sur France Culture. Entendez-vous l'écho continue en compagnie d'Odile Lacomsky, Laguerre et de Marc Alizard. J'aimerais me tourner vers vous, Marc Alizard, sur cette question de l'État et sur le positionnement politique d'un certain nombre de militants en faveur des crypto-monnaies. On a vu que les libertariens apprécier particulièrement le projet politique des crypto-monnaies. Est-ce que, selon vous, il faut penser les monnaies virtuelles nécessairement comme un projet contre l'État, Marc Alizard ?
Non. J'ai parlé de consensus décentralisé. C'est la technologie, enfin le mode de fonctionnement hein, qui permet à Bitcoin d'exister. Vous pouvez entendre deux manières d'entendre ce processus. Soit vous mettez l'accent sur décentralisé, et vous avez au fond l'acception libertarienne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet à chaque individu de se libérer d'une tutelle, et on va parler à ce moment-là du fait qu'on supprime les tiers de confiance, les banquiers, les avocats, les notaires, les banquiers centraux, les hommes politiques, l'État de manière générale, avec un discours anti-taxe, qui est le fondement l'aspect politique de l'économisme libertarien. Et puis vous pouvez aussi insister sur la notion de consensus. C'est quand même quelque chose qui fabrique du commun.
Et là, on est un tout autre endroit de l'échiquier politique.
On est à un tout autre endroit de l'échiquier politique. On est dans la continuité du poème qu'on a entendu, c'est-à-dire des cybercommunalistes qui pensaient que la communication avait vocation à créer du commun. Et les crypto-anarchistes pourrait très bien être appelé aussi des crypto-communalistes sur le modèle des cyber-communalistes qui avaient régné dans les années 70. Alors, ils ne le font pas parce qu'ils sont revenus de l'utopie cyber-communaliste. Les critiques d'Internet, les critiques de la centralisation d'Internet, de la société de contrôle, de la financiarisation d'Internet, ce sont des gens qui l'ont fait très tôt, dès les années 80. C'est le mouvement cyberpunk, c'est ensuite le mouvement crypto-anarchiste. Et donc, il y a une distance par rapport à l'utopie cyber-communaliste qui fait qu'ils c'est pas directement politiquement la direction qui sont prises. Mais la réalité de Bitcoin, c'est que c'est l'appropriation collective des moyens de production monétaire. C'est-à-dire, si on paraphrase Marx, c'est bien une appropriation collective d'un moyen de production. C'est la première, peut-être, d'ailleurs.
Et alors, quel est le type de gouvernance qui s'exerce dans cette communauté? J'aimerais vous faire entendre sur ce point l'historien et spécialiste du Bitcoin, Jacques Favier.
Chez Bitcoin, on dit souvent, finalement, c'est une hachocratie. Plus vous avez de capacité de hachage, plus votre voix compte. C'est vrai qu'il y a un pouvoir des mineurs. Il y a aussi d'autres pôles, par exemple les utilisateurs, qui ont leur mot à dire, clairement, qui votent avec les pieds. Les plateformes, qui peuvent ou non lister un nouveau jeton. Et puis, naturellement, les développeurs. Donc, c'est un peu comme l'Angleterre. Elle n'a pas de constitution écrite, mais de son histoire, on déduit une constitution.
Voilà, les mineurs n'auraient pas tous le même pouvoir. Selon vous, c'est l'une des limites du système, Odile Lacomski-Laguerre ?
Le fait que les mineurs n'aient pas le même pouvoir, le type de gouvernance ?
Oui, sur le type de gouvernance.
Bah, c'est difficile à dire. Alors, moi, je suis économiste, hein, je ne suis pas spécialiste des problèmes de gouvernance, mais ça a été, en fait, c'est un problème qui a été posé au moment où il y a eu un énorme débat sur la question de la capacité du réseau à absorber des gros volumes de transactions, et donc la communauté était divisée sur les solutions à y apporter. Soit il fallait augmenter certains proposaient l'augmentation de la taille des blocs, d'autres refusaient parce que c'était pas conforme à la logique première de Nakamoto. Donc la communauté s'est divisée sur ce point-là, et à ce moment-là, effectivement, on a pointé des problèmes de gouvernance qui venaient du fait que le système est assez fâle. Il n'y a pas de tête, en fait, de direction centralisée. Et donc, à l'époque, dans certains écrits, on trouvait l'idée que sur la plateforme Ethereum, finalement, ça fonctionne mieux parce qu'il y a un personnage identifié, il y a un entrepreneur, Vitalik Buterin, etc. etc. Bon. Je pense qu'à l'heure actuelle, si on veut vraiment réfléchir sérieusement et parler sérieusement du système Bitcoin, il faudrait, notamment chez les économistes, mais qui font un peu d'institutionnalisme, s'occuper de construire une économie politique des réseaux. Donc de s'intéresser à la logique des réseaux, à la logique de ces communautés, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre quel type d'organisation politique ça peut donner. Et ça me permet de rebondir d'ailleurs sur la question de la monnaie. Fondamentalement, pour qu'une monnaie fonctionne et soit largement acceptée par une communauté, il y a bien sûr la confiance des utilisateurs. Bon, faut qu'il y ait un effet de seuil, hein, c'est-à-dire qu'un nombre critique de personnes utilisent bien sûr cette monnaie, mais il faut aussi la confiance des utilisateurs. Alors, il y a plusieurs types de confiance. Et il faut la légitimité de ceux qui émettent. Donc la légitimité renvoie évidemment à une organisation politique et effectivement à la capacité de créer du commun, des biens communs, mais en tout cas à une forme d'organisation politique à laquelle il faut réfléchir.
Pour vous, Marc Alizard, le projet des crypto-monnaies, c'est peut-être un état en soi où s'exerce une forme de démocratie à l'heure actuelle ?
Oui, on a parlé de gouvernance algorithmique parce que effectivement il y a une suppression de la confiance par l'algorithme, mais elle est largement cantonnée aux échanges cryptographiques dans le réseau. La réalité, c'est ce que dit Odile Lacomski, c'est que cette monnaie c'est un rapport social et c'est la confrontation de points de vue, comme le dit Jacques Favier, qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire vous avez un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir, j'ai oublié le troisième du coup.
législatif,
législatif, voilà, qui correspond au Parlement, voilà, aux utilisateurs, aux mineurs, et il faut que les trois se mettent d'accord sur la voie à suivre pour continuer. Bitcoin se dit figé et se dit algorithmiquement cristallisé dans sa perfection et sa pureté. On parle de la parole de Satoshi Nakamoto, même si on parlait de Martin Luther, mais c'est pas du tout le cas. Si les utilisateurs décident demain qu'on change les blocs, comme vous disiez, ou bien qu'on monte le seuil de Bitcoin créé, c'est tout à fait possible. Et c'est même un débat permanent dans la communauté des Bitcoiners, qui est une communauté hyper vivante, celle de toutes les crypto-monnaies de manière générale, qui agglomère des gens de plein de savoirs différents et qui débattent ça. Alors parfois, elles redécouvrent un peu l'eau chaude. Je crois que les économistes s'agacent un peu de voir que les crypto-monnayeurs réinventent la banque, réinventent le crédit, réinventent... Mais c'est merveilleux de voir des gens, des utilisateurs de monnaie redécouvrir ça. La monnaie, c'est quelque chose d'hyper abstrait, d'hyper compliqué, qui nous échappe largement en tant que citoyen, à la fois dans sa conception, dans ses usages, et puis dans son émission. Les gens ne savent pas comment on produit de la monnaie. Et pendant longtemps, ça a été un non-sujet. On parle de tout en démocratie, mais on ne parle pas de la monnaie. La monnaie, c'est trop important pour que le peuple s'en occupe. C'est un peu comme la guerre, c'est trop important pour que les militaires s'en occupent. Alors la monnaie, c'est pareil, sauf que, en l'occurrence, la tutelle des armées est politique, alors que la tutelle des banques centrales, non. Mais pourquoi? C'est quand même bizarre. Alors, c'est merveilleux de voir des gens qui ont 20 ans découvrir que la monnaie est quelque chose, que ça a un impact économique, qu'on peut se l'approprier, on peut en fabriquer.
Et en même temps, les États ne sont pas forcément prêts à se laisser faire face à ce phénomène, justement, de cette importance croissante des crypto-monnaies. Selon vous, Nelam Chomsky, la guerre, quel peut être, quel doit être le rôle de l'État? On parlait tout à l'heure de la Chine qui avait interdit le Bitcoin.
Bah, ça, c'est extrêmement compliqué parce que quand même, à l'origine, le projet Bitcoin a quand même pour vocation de créer un système parallèle qui échappe à tout contrôle étatique et de recréer une sphère économique complètement alternative. Donc pour les États, c'est quand même extrêmement compliqué à gérer. Bon, maintenant, certains États se débrouillent de cette affaire en fonction de leur culture. Regardez aux États-Unis, au départ, ça a été plutôt bien accueilli parce que c'est quand même fondamentalement une culture de l'innovation. Bon, c'est quand même aussi la nation de la Silicon Valley. Bon, donc ça a été plutôt bien accueilli, mais quand même avec des mises en garde et puis des questions de régulation. En France, c'est aussi un peu le cas, c'est-à-dire que on a à la fois des officiels qui sont pas très très bienveillants à l'égard du Bitcoin, comme les représentants évidemment des institutions bancaires, Banque de France, etc., qui voient quand même
la concurrence que ça représente.
La concurrence est une menace potentielle. Néanmoins, au niveau des politiques, il y a quand même une certaine forme de bienveillance, qui est notamment due au fait que c'est surtout qu'on a séparé la question du Bitcoin de la technologie blockchain, et la France n'a pas envie du tout de rater le virage de la blockchain, comme nous avons raté, n'est-ce pas, le virage de l'Internet avec notre Minitel. Et d'ailleurs, il y a eu un grand rassemblement à la station F autour de la question de la blockchain, et la France voudrait devenir une place très importante pour la blockchain. Et en revanche, des États très autoritaires comme la Chine voient dans le Bitcoin une très très sérieuse menace quant à la capacité de contrôle sur les individus, la capacité de contrôle de change aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu interdiction du Bitcoin.
Vous parlez de la différence entre le Bitcoin et sa technologie, la blockchain. Ce que l'on observe, c'est que c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée par les banques elles-mêmes. Est-ce que c'est aussi une manière pour elles de riposter?
Alors, les banques, effectivement, ont été quasiment les premières à créer des labs et des groupes de recherche sur la technologie blockchain pour, évidemment, savoir comment récupérer et utiliser la blockchain dans les opérations bancaires. Donc au départ, c'était pour éventuellement rationaliser les paiements dans les chambres de compensation, dans les opérations transfrontalières aussi, les paiements internationaux. Donc les banques ont créé leur crypto-monnaie, Ripple. Oui, évidemment, en s'emparant de la technologie, c'est un moyen de se protéger de la concurrence et d'affaiblir aussi Bitcoin, puisque si les banques deviennent plus performantes grâce à la technologie blockchain, si elles proposent des paiements toujours plus performants grâce à cette technologie, c'est aussi un moyen
de lutter contre cette concurrence,
d'affaiblir Bitcoin. Oui, c'est un des enjeux, à mon avis, pour le système Bitcoin.
Et il y a aussi de nombreux autres domaines, Marc Alizard, qui utilisent cette technologie de la blockchain. Elle n'est pas cantonnée à la sphère monétaire.
Non, pas du tout. C'est une monnaie programmable, puisqu'elle est numérique. On peut insérer dans les blocs à peu près ce qu'on veut, y compris des scripts de programme qui libèrent, par exemple, une chambre d'hôtel au moment où on l'a payé, ou avec une clé électronique. Ça permet de se passer un certain nombre d'intermédiaires. Donc, il y a plein de startups qui travaillent sur ce genre de choses. Mais ça permet aussi de relier entre l'Internet des objets, qui est un des gros enjeux de l'avenir, à la fois en termes de sécurité, de sécurisation de l'Internet des objets, qui ne l'est pas aujourd'hui, mais qui peut le devenir grâce au système de cryptographie. Il faut quand même remettre ça aussi dans ce contexte-là. On parle de sécurité informatique. Et puis ça permet de créer ce qu'on appelle des DAO, des organisations décentralisées, c'est-à-dire des organisations de machines, en quelque sorte, qui échangent entre elles de l'argent et se fabrique sans elle-même de tiers, sans PDG, sans CEO, sans comptable.
Et c'est pour ça que vous dites, Marc Alizard, que la blockchain, c'est finalement un moyen d'améliorer, de rénover la démocratie.
En tout cas, ça va transformer profondément la possibilité de privatiser et de détourner à son profit les points faibles du processus démocratique. On le voit par exemple chez les Gilets jaunes qui remettent en cause la démocratie représentative au nom du fait que les députés qui sont élus du peuple, ont finalement dans le huis clos de leur délibération, sont-ils toujours fidèles au mandat qu'ils ont ? C'est des questions qui sont fortes aujourd'hui de confiance dans la démocratie.
Et la transparence de la blockchain ?
Oui, je pense que la transparence de la blockchain peut en partie résoudre ce genre de problème. D'autres pensent que c'est le contraire parce qu'une gouvernance algorithmique rend les choses encore plus compliquées et dangereuses. On verra à peu près où ça nous emmène, mais moi ça m'évoque une phrase de Marx, qui était d'Engels en l'occurrence, qui est assez prémonitoire si on a parlé d'Hayek, mais Engels aussi a une prémonition sur une société à venir quand il dit l'état futur, en l'occurrence le communisme pour lui, c'est le remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses. C'est un petit peu ça, blockchain.
Sur ce rapport entre la blockchain et la démocratie, sur ce que cette technologie pourrait apporter plus largement au-delà de la sphère monétaire, Odile Lacomski-Laguerre.
Alors, moi, je vois un petit peu moins bien. Je suis peut-être un petit peu moins... Le fait que, effectivement, la décentralisation permettrait de promouvoir des rapports plus horizontaux. Mais je suis un petit peu moins optimiste, moi, sur cette question de transparence absolue. Je pense que tout ne peut pas être transparent. Voilà.
Et vous y voyez peut-être plus davantage un outil de contrôle, cette technologie blockchain, elle pourrait pas être détournée pour finir par être un outil de contrôle?
C'est toujours de toute façon le gros problème de la technologie. C'est-à-dire que une technologie qui apparaît comme a priori libératrice peut aussi se retourner contre nous et être au contraire une source de contrôle. Effectivement, sur la blockchain, le registre est complètement public, donc tout est traçable, voilà, même si on fonctionne avec des pseudonymes. Donc on pourrait imaginer effectivement que la prise de contrôle d'une telle technologie par des États, des institutions ou des groupes très autoritaires puisse effectivement retourner cette technologie contre nous. Mais encore une fois, on n'en est qu'au balbutiement et je pense qu'on ne comprend pas encore. Je pense qu'on n'a pas encore tout le savoir possible pour être capable de lire quelles seront les formes de droit, quelles seront les formes politiques qui vont advenir avec cette technologie.
On arrive presque au terme de cette émission. Marc Alizard, un dernier mot peut-être sur l'avenir des crypto-monnaies et sur les surprises peut-être que nous réserve l'avenir.
Non, je suis complètement d'accord avec Odile Lakomsky. C'est une expérimentation. Elle peut échouer. D'ailleurs, tout le monde le dit dans le milieu des crypto-monnaies. Donc, peut-être que tout le monde se trompe. Elle est moins évidente que ce qu'on dit, puisqu'encore une fois, elle supprime la confiance d'un côté, elle la remet ailleurs dans le mode de gouvernance, elle la confie aux développeurs. Il y a d'autres opacités qui se créent, d'autres transparences. Bon, c'est quelque chose de complexe, mais c'est évidemment extrêmement excitant. Il faut se dire qu'on est à peu près en 1994, au moment d'Internet. On est à peu près à ce moment-là de qui aurait pu prédire qu'Internet serait exactement ce qu'il est aujourd'hui, certainement pas les gens qui n'ont pas vu venir, ceux qui l'ont vu venir, comme AOL qui a cru que avec une page d'accueil, elle avait résolu le problème. En fait, voilà, Internet est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et Bitcoin et les crypto-monnaies seront probablement autre chose que ce qu'on imagine aujourd'hui.
Et c'est l'heure pour nous de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur l'abdication de l'empereur Hirohito qui signe la fin de l'ère Heisei au Japon.
Oui, une cérémonie qui a semble-t-il marqué les esprits par-delà les rives du Japon. Ainsi, les médias occidentaux n'ont pas manqué de relever l'absence flagrante de femmes au cours de cette cérémonie d'intronisation. Il faut dire que l'étiquette de la cour est particulièrement rigide en la matière. Plus généralement, le trône du chrysanthème réserve une place pour le moins limitée aux femmes de la famille impériale. Ainsi, dès lors qu'une princesse épouse un roturier, elle doit quitter la famille et renoncer à son statut princier. Et bien sûr, pas question qu'une femme accède au pouvoir. Mais comme bien souvent, cette règle n'a rien d'immémorial, et ce qui est présenté comme une tradition de la maison impériale ne remonte en réalité qu'à 1947. Alors que le Japon a déjà connu 8 impératrices, le nouveau code adopté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale impose la succession patrilinéaire et écarte durablement les femmes du pouvoir.
Mais pour la professeure et psychiatre Rika Kayama, interrogée par Libération, cette situation des femmes dans la famille impériale est largement symbolique et symptomatique de la place des femmes dans la société japonaise.
Absolument, le Japon se positionne ainsi actuellement à la 110e place sur 145 dans le Global Gender Gap du Forum économique mondial. Ce classement prend en compte un ensemble de critères liés à l'économie, l'éducation ou encore la santé pour mesurer les efforts d'un pays en faveur de la parité. Et si les femmes ne sont exclues au Japon ni de la santé ni de l'éducation, c'est en matière économique que le bât blesse, et notamment en ce qui concerne leur intégration sur le marché du travail. Ainsi, en 2012, seuls 68% des femmes occupaient un emploi. Face à cette situation, mais surtout confrontées au vieillissement de la population et à la baisse du taux de natalité, le gouvernement japonais mené par Shinzo Abe s'est fixé pour objectif d'atteindre 77% du taux d'emploi des femmes d'ici à 2020. On entendait ici le Premier ministre Shinzo Abe lors d'une conférence de presse en avril 2017 expliquer sa décision d'embaucher 30% de femmes dans les services publics. Il encourage également les entreprises cotées en bourse à nommer au moins une femme à leur conseil d'administration, expliquant que ce type de décision favorise leur stabilité de long terme.
Une politique qui a en partie porté ses fruits.
Oui, en partie. Grâce à une série d'incitations, le gouvernement a permis l'entrée sur le marché du travail de plus de 2 millions de femmes en 5 ans. Le problème, c'est que la plupart des postes créés sont des emplois précaires. Ainsi, plus de 55% des travailleuses japonaises occupent un emploi à temps partiel, contre une moyenne de 30% au sein de l'Union européenne. Mais surtout, les femmes demeurent très largement sous-représentées dans les postes d'encadrement et de direction. À l'heure actuelle, seuls 15% des cadres du secteur public et 18% du secteur privé sont des femmes. Pour la sociologue Shizuko Ueno, interrogée par l'Express, cette situation est largement due à la mentalité nippone et aux places auxquelles sont immanquablement assignées les femmes japonaises.
Ainsi, le manque structurel d'espaces de garde d'enfants et de crèches est l'un des facteurs principaux de la relégation féminine à des postes à temps partiel.
Oui, résultat, seule une mère sur quatre était employée à temps plein en mars 2018. Une situation encore aggravée par le vieillissement de la population qui a conduit nombre de femmes à abandonner partiellement ou totalement leur travail pour s'occuper de leurs aînés. Notons heureusement que l'action du gouvernement a tout de même permis de féminiser la cérémonie d'abdication de l'empereur Hirohito, puisque la seule femme présente à cette passation de pouvoir n'était autre que l'unique ministre du gouvernement Abe en charge de l'égalité homme-femme. You give me a number, I call you up. You act like you don't interrupt. I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you. Cause you said you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad. For
good or worse makes you switch. So I walk on over with my crystal. Put away your pistol. Dirty won't be having it in his house. Cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another nigga. Gucci won't get moist. If you wanna look good,
got your money, dull dirty bastard. Merci beaucoup Odile Lacomski-Laguerre et Marc Alizard de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les méandres de la blockchain. Demain, comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde d'actualité économique au cours de laquelle on interrogera l'avenir de nos retraites. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.